Critique par le père Philippe à Saint-Joudard, le 26 juin 90.
Nous allons continuer la critique. Je vous avais montré la dernière fois le rôle de l'intellect agent pour la première abstraction, c'est-à-dire le passage de l'image à la forme intelligible. Vous comprenez bien? On constate l'image a comme fonction de représenter. Et nous savons que nos mots ont une signification. Les mots les plus simples, blanc, ça a une signification. Et blanc, vous pouvez aussi le représenter. Vous représentez blanc. La blancheur du mur. Donc, il faut bien comprendre la différence entre le point de vue de la représentation et le point de vue de la signification. La signification peut avoir un mode universel, alors que la représentation est toujours singulière. La très grosse différence entre les deux. Comment expliquer ce passage? Alors, on pose l'intellect agent. Et vous comprenez pourquoi? Parce que c'est ça la vitalité de l'intelligence. On connaît les réalités sensibles par des images. Comment on connaît ces mêmes réalités d'une manière plus profonde, pas seulement en les représentant, mais en connaissant ce qu'elles sont, leur signification. Et c'est tout le problème de la signification, qui est un des problèmes de la philosophie contemporaine, très fort. D'où vient la signification? Qu'est-ce que c'est que la signification? Il faut expliquer que la signification, elle vient de l'intelligence. C'est évident. Il n'est pas écrit sur une fleur. Je suis une fleur. Et une fleur, ça a une signification. Une rose, ça a une signification. D'où ça vient? Est-ce que la fleur a une signification pour la vache? Vous allez dire, je n'ai jamais demandé. C'est évident. Et je crois que la fleur n'a aucune signification pour la vache, en dehors de l'ordre utile. Est-ce que la vache peut manger une fleur? C'est curieux, hein? Pourtant, elle doit être séduite par la couleur. Elle ne la mange pas. D'avoir une vieille expérience ancestrale des épines. Oui, comme il y a une expérience moins ancestrale du fil de fer électrique. Ça provient du concours de l'intelligence et de la réalité. Pour nous, ça provient des deux. Pourquoi? Parce que la signification n'est pas quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Vous voyez? Intelligere, c'est lire de l'intérieur. Sensible ne peut pas déterminer mon intelligence. Il faut donc que de l'image, on passe à une forme intelligible capable de déterminer l'intelligence. Je constate ça et je l'explique au plan critique par le point de vue de l'intellect agent. supposer ça, parce que c'est mon intelligence qui connaît la fleur. C'est mon intelligence qui donne une signification aux choses. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Coopération avec l'univers. La même chose pour l'enseignement. Vous recevez une douche de mots quand vous écoutez un cours. Et vous essayez de comprendre la signification de ces mots. Pensez au premier cours de métaphysique auquel vous avez assisté. C'est un langage très particulier. Heureusement que de temps en temps, il y avait des mots latins qui vous reposaient en disant « C'est pas étonnant, c'est du latin. C'est pour ça que je ne comprends pas. » Et pourtant, c'était une langue, la même. Mais il y avait des termes techniques qu'on ne comprend pas. Les termes techniques ont leur signification. Les hommes les ont inventés parce que ce sont des termes techniques, ce n'est pas naturel. Il y a des termes logiques, techniques. Il y a des termes critiques, techniques. Dialectique, c'est un mot. Vous n'avez jamais vu la dialectique pousser. Cet arbre, c'est un arbre dialectique. Non, ça n'existe pas. Le mot dialectique est un mot artificiel que l'homme a inventé. Et quand vous recevez ce mot pour la première fois, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Le gosse interroge pour savoir la signification des choses. C'est très élémentaire la signification. C'est le premier moment de la vie intellectuelle. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, un des problèmes de la philosophie, c'est de savoir d'où vient la signification. Quand on a perdu le réalisme, c'est pas commun du tout. Alors, où c'est les idées innées. Mais les idées innées n'expliquent pas l'enseignement. Mais si vous avez vos idées innées et que j'ai les miennes, on va courir longtemps. Alors que dans l'enseignement, on communique ce qu'on a pensé à quelqu'un qui désire penser et qui reçoit ça. Et puis petit à petit, il y a cette espèce d'harmonie qui se fait et il y a une signification qu'on reçoit. Mais dans le langage, on informe. Dans l'enseignement, on informe l'intelligence de l'autre pour qu'il reçoit par le langage cette information, cette détermination. Donc, on analysera ce premier moment de la vie intellectuelle qui est l'assimilation, en voyant comment il faut, au point de départ, la forme, une forme intentionnelle qui détermine, qui informe. En scolastique, on appelle ça species impressa. Species impressa, c'est le terme classique de saint Thomas. Species traduit le grec eidos. Donc, je peux très bien traduire species forme. Possible. ceci est une rose. La rose n'est pas changée parce que je la connais et parce que je dis à mon voisin, voici une rose. La connaissance ne modifie, la connaissance intellectuelle ne modifie pas ce qu'elle connaît. Et c'est pour ça qu'on dira assimilation intentionnelle. Tout se passe au-dedans de moi-même. Et comme c'est une assimilation, il faut que la détermination de cette assimilation soit au point de départ et au terme. Et donc, cette assimilation intentionnelle de la rose implique que, au point de départ de cette opération que je constate, il y ait la forme intentionnelle. Que le concept, quand dit que
ces hommes. On l'a affirmé, mais c'était vrai, je le constate. Je constate que lorsque je regarde l'homme, je peux dire, c'est un animal. C'est un homme, il est raisonnable, il a l'intelligence, l'animal ne l'a pas. Il a telle propriété, puis il a tel accident. Les choses accidentelles, et puis les choses au contraire qui caractérisent la réalité. Et mon intelligence est capable d'avoir tout de suite ces niveaux différents à l'intérieur de l'universel. Ce qui permet de définir. Donc, je vois que c'est complexe. Hein. C'est pas simple du tout, mais c'est toujours la simulation intentionnelle qui me permet de passer de la représentation à la signification universelle. Et pour expliquer ce passage que je constate, j'ai posé l'intellect agent qui, de l'intérieur, a illuminé le fantasme, l'image, pour en extraire la forme intentionnelle. Donc la forme intentionnelle n'est pas une idée a priori, elle provient de la forme. Et ceci explique comment mon expérience m'enrichit intellectuellement. La différence spécifique est quelque chose qui structure essentiellement la réalité. Vous êtes intelligent. La propriété, vous êtes capable de rire. Pas la même chose. Capable de nager, d'être capable de courir. Tandis qu'au contraire, la différence spécifique détermine. Mais comprenons bien que la seule différence spécifique que je saisis, c'est celle de l'homme. Je ne connais pas la différence spécifique du rang. Si on connaît la fontaine, roi de ville, roi du champ, mais ce n'est pas des différences spécifiques. C'est des différences accidentelles. Tout à fait accidentelles. Je ne connais pas la différence spécifique des animaux. La seule différence spécifique que je connais, c'est l'homme. Vous voyez comme c'est curieux. L'intelligence est faite pour connaître l'homme. Et je vois tout de suite, dans ces cinq, c'est pour ça qu'il n'y a que la philosophie qui s'occupe de l'homme, qui prend tous les registres de l'universel. Les mathématiques et les sciences à base de mathématiques ne prennent pas les cinq prédicats. C'est très très curieux. Ça sera intéressant à préciser et à comprendre les conséquences. Donc, il faut bien comprendre que le premier problème au point de vue critique, c'est l'assimilation. Avec l'apparition du concept, cette forme intentionnelle qui exprime la signification de la réalité. Et la signification de la réalité, vous comprenez? Donc, le concept, la species expressa, provient de la species impressa. Et la species impressa provient de l'image. Et l'image provient des sensations. Et les sensations se mettent en contact avec la réalité existante. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Avant d'avoir la signification de la rose, il faut bien reconnaître les sensations, les cinq sensations, l'image, les cinq images. Chaque sensation me donne une image particulière. Species impressa. Alors, y a-t-il cinq images, cinq species impressa? Et sûrement cinq concepts plus exactement, la spécieuse expressa impliquant cinq modalités. Les cinq modalités universelles impliquent cinq concepts. Et ces cinq concepts impliquent des species impressa différentes. Oui. C'est très très curieux de voir ça, les étapes. Alors évidemment, vous n'y pas, ça se fait instinctivement. J'avais pensé à toutes ces étapes. Vous voyez une fleur, tout de suite. En réalité, il y a l'image, il y a l'intellectagent qui purifie ça. Et puis, vous dites, rose. Cherchez bien, vous verrez qu'il n'y a pas moyen d'en sortir autrement. Point de vue critique. Il faut expliquer le passage de la représentation à la signification. Et là, le problème de l'abstraction. De l'abstraction, comme saint Thomas l'appelle, l'abstraction universelle. Donc le passage de l'image, le passage de l'image à l'esprit de Jésus présent implique une abstraction. Une abstraction universelle, comme dira saint Thomas. Je suis passé de la représentation à la signification. Vous voyez bien ça, hein ? L'intellect agent va continuer son œuvre à partir pour le jugement. Que fait le jugement ? Le jugement me fait passer de l'assimilation à l'affirmation, l'adhésion. Je dis, la rose existe. Voici la rose. Ça, c'est un jugement. Et voici la rose. À ce moment-là, votre intelligence observe la réalité existante. Et je vois si ce que j'ai dit de cette réalité est exact et vrai. Parce que à ce moment-là, je vais essayer de voir si ma forme intentionnelle qui affirme, ceci est une rose, est conforme à la réalité. Et je peux le faire grâce au jugement. Le jugement qui vient ensuite, après l'appréhension, dont j'ai conscience, là, j'ai conscience du jugement. Le jugement va être un retour au singulier, à l'existence de la rose. Regarde cette rose, c'est un jugement. Voici cette rose, c'est un jugement. Alors, on regarde la rose existante, et la rose existante, elle est toujours singulière. Elle existe dans sa singularité. Et non pas dans son mode universel, alors que la forme intentionnelle existe dans sa forme universelle. Alors comment expliquer ce fait du jugement que je fais tous les jours sans y penser ? Spontanément, vous regardez la réalité, ah voilà, voilà ce que j'attendais. C'est l'intelligence qui, alors, à ce moment-là, regarde la réalité en tant qu'elle est la mesure. mesure de ma connaissance, de mon affirmation, en disant voici la rose. Je montre l'existence de la rose. Et donc il y a un jugement qui va impliquer une adhésion. Pour que ce jugement puisse se faire, l'intellect agent va encore agir. Alors, nous sommes en présence d'un second dépassement de la vie d'intelligence. Premier dépassement, le passage donc par l'abstraction de l'image, de la représentation à la signification. Ça, c'est le premier. Le second, de l'appréhension au jeu. J'ai découvert l'appréhension à partir du jugement. Et donc, je n'ai pas à redécouvrir le jugement à partir de l'appréhension. Donc là, tout de suite, voie sans issue. Avoir le courage de le dire. Ce n'est pas l'appréhension qui va m'exiger du jugement, c'est l'inverse. Ça, j'ai constaté en philosophie du vivant. Je l'ai constaté en métaphysique. C'est suffisant. C'est un fait. Donc il faut comprendre que l'appréhension est pour le jugement, mais que le jugement n'est pas pour l'appréhension. Ça, c'est très important à comprendre. Hein. Ce qui prouve que le jugement est en acte quelque chose de plus fondamental que l'appréhension. De plus radical. Et ceci me permet de comprendre que entre l'appréhension et le jugement, il n'y a pas de continuité de forme intentionnelle. Il y a une analyse. J'ai analysé. Il n'y a pas une continuité vitale. Je constate. Je constate que je juge et que j'appréhende. Mais s'il n'y a pas de continuité d'ordre de l'analyse, il y a une continuité vitale, en ce sens que dans tout jugement, il y a une appréhension. Et toujours. Il faut donc comprendre que le jugement est naturel à l'intelligence. Et sui generis. C'est l'acte le plus naturel de l'intelligence, juger, adhérer. Un acte plus naturel que l'appréhension. Et donc, c'est bien dans le jugement que l'intelligence va saisir, non pas telle forme, mais ce qui est l'être. Parce que précisément, l'intelligence est faite pour ça, pour juger, pour adhérer. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans le jugement ? C'est saisir la réalité existante en tant qu'elle existe, en tant qu'elle est. Alors, est-ce que c'est la réalité elle-même existante qui détermine mon intelligence? Est-ce qu'une réalité comme un petit caillou, purement physique, purement matériel, du fait même qu'il existe, il est capable de déterminer mon intelligence qui est d'ordre spirituel? Comment se fait la détermination de mon intelligence par la réalité existante? J'ai expliqué pour l'assimilation. Maintenant, il s'agit d'expliquer pour l'adhésion. Comment mon intelligence adhère à la réalité? Et comment mon intelligence est capable d'adhérer à la réalité ou de ne pas y adhérer? Ça veut dire, ben oui, elle est ordonnée à ça naturellement. Oui, mais expliquez encore un tout petit peu. Parce qu'en réalité, elle présuppose l'abstraction. Mais elle, dans le jugement, elle n'est pas déterminée par l'abstraction. L'abstraction est nécessaire pour saisir la signification de telle détermination. Et dans le jugement, je dépasse telle détermination pour affirmer l'existé de cette chose. Donc c'est bien l'exister lui-même qui attire l'intelligence, qui polarise l'intelligence et qui actue l'intelligence. impossible. Pourquoi? Parce que l'être possède en lui-même la capacité de déterminer l'intelligence. Parce que l'être par lui-même est intelligible. C'est sa propriété d'être intelligible. Et il demeure possédant cette intelligibilité. suffisant. La réalité elle-même existe. Et en existant, se dévoile. C'est un problème très très délicat, ça. Il faut pas mettre l'intellect à Jean tout le temps. Mais il faut mettre là où il le faut. Alors doit-on le mettre là? Quand vous dites ceci, et votre intelligence se sert directement de l'image. Et par l'image atteint la réalité. Mais votre intelligence se sert de l'image, puisqu'elle parle de l'exister. Ceci est ce que les sens, ce que les passions ne peuvent jamais dire. Les passions peuvent me donner le sens de certaines formes, mais les passions ne peuvent jamais me faire toucher le point de vue de l'exister. Oui. Alors, est-ce qu'il faut mettre l'intellect à Jean? Il ne faut pas mettre l'intellect à Jean, là aussi, c'est inutile. Mais, alors, moi, je crois que l'intellect à Jean a encore un rôle, là. Pour que, de l'intérieur, l'intelligence puisse être en connaturalité avec telle réalité existant de telle manière. Et l'intellect agent aura pour fonction de mettre pleinement en acte au niveau de l'intelligible. Cette réalité existante. Et l'intelligence à ce moment-là sera déterminée par cette forme intentionnelle, attirée vers elle, et laissant de côté les choses secondaires. On sera très proche de ce qu'on va appeler, voyez, l'abstraction formelle. Quand il s'agit d'une induction, puisque la saisie de ce jugement d'existence est la condition sine qua non pour toute induction. Alors c'est peut-être là où vous voyez le mieux le rôle de l'intellect agent. C'est pour préparer l'induction. C'est-à-dire le passage de ce singulier un autre universel, le principe. Et vous aurez l'abstraction formelle.